Chères auditrices et auditeurs, bonsoir et bienvenue au forum du studio Kalangou. Vous suivez nos programmes sur les ondes de nos 50 radio partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Le chômage des jeunes à Dosso, comment y remédier, est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Hassan Alfari, EHPAD, Abdoulkarim Madougou, cadre de concertation, Ibrahim Garba, entrepreneur, et Soumane Boubacar Zainabou, entrepreneuse. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre dans cette émission qui parle du chômage des jeunes à Dosso, comment y remédier. Au Niger, la jeunesse constitue la majeure partie de la population et cette jeunesse est confrontée à un sérieux problème qui est le manque d'emploi. Dosso, comme partout ailleurs au Niger, ce problème est récurrent. Ce manque d'emploi a des conséquences néfastes. Je commencerai avec Hassan Alfari de EHPAD. Pourquoi Dosso est confronté à cette situation? Pourtant, Dosso, pour celui qui le connaît, est une localité pleine de potentialités à saisir.
Merci de m'avoir honoré d'être présent à cette émission.
Merci aussi.
Donc, ce problème qui gangrène, notamment au niveau des jeunes, d'abord, je dirais que c'est un problème qui est dû à la situation géographique de notre région.
C'est-à-dire
que notre région d'Osso est frontière à deux pays dont ce sont des pays producteurs qui, toute leur production, ils produisent et puis ils balancent. Et nous, de notre côté, on constate que nous sommes majoritairement des consommateurs et non des producteurs. Mm-hmm. Donc les jeunes ne produisent pas. Donc ça, c'est un véritable problème qui empêche le travail des jeunes.
Merci. Nous allons venir à Abdoulkarim Madougou. Pourquoi Dosso est confronté à cette situation?
Merci. Spécifiquement, dans notre localité, la région de Dosso, la jeunesse représente la plus grande partie de la population. La jeunesse est confrontée à trois problèmes. D'abord, une dégradation du système éducatif. Ensuite, l'extrême pauvreté, un manque d'industrialisation et une modernisation de certains secteurs d'activité.
Ibrahim Garba. Pourquoi Dosso est confronté à cette situation, selon vous?
Merci beaucoup de nous avoir invités sur ce plateau. Ce problème, il faut le voir sous trois angles. Le premier vient d'être évoqué par mon prédécesseur. Il s'agit de l'insécurité grandissante. Le deuxième facteur, c'est le changement climatique. Le troisième, c'est plutôt le choix d'emploi aussi. Parce que les gens ont des préférences sur les métiers. Chacun attend qu'il soit recruté par l'État. Sachant bien que les moyens de l'État sont limités, de plus en plus qu'il y a cette démographie galopante,
oui.
On ne peut pas dire que tout le monde sera recruté.
À la fonction publique.
À la fonction publique, bien sûr. Et c'est là... Dans la tradition ou bien dans la culture de cette jeunesse, surtout de Céleste, chacun ne veut être ce commis-là qui, quand il vient, tout le monde s'élève et quand il parle, tout le monde s'éteint. Et à la fin du mois, il va aller pour prendre quelque chose et faire la fiesta. C'est-à-dire ça, c'est ce qui est en train d'empirer ce phénomène de chômage.
Chômage.
Du moment où chacun... attendre un avenir pour qu'il soit radieux, pour qu'il soit embauché
à la fonction publique.
À la fonction publique, bien sûr. Tandis qu'il existe d'autres alternatives qui peuvent aider à se prendre en charge.
On va revenir à ces alternatives. Zainabou, pourquoi Dosso est confronté à cette situation?
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Nous remercions Studio Kalangou de nous avoir appelés aujourd'hui. Et comme le disaient mes camarades, ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail. C'est que nous ne voulons pas travailler. On attend tous à ce que l'État nous appelle, alors que nous sommes assez beaucoup pour que l'État puisse nous suffire. Donc le fait d'attendre l'État là, ça ne va pas nous amener où nous voulons aller.
Oui.
L'État, c'est peu pour nous.
C'est très peu.
C'est trop peu pour nous, très même.
Merci donc. Nous avons vu les causes du chômage. Pourquoi Dosso est confronté à cette situation? Pourtant, nous avons dit que Dosso est une localité qui regorge beaucoup de potentialités. Le chômage, quelles sont les conséquences? Je veux commencer avec Hassan Alfari.
Voilà, et les conséquences que le chômage peut créer aux jeunes, ou bien de la population de manière générale.
Général, oui.
Je peux dire il y a les conséquences comme l'insécurité.
Mm-hmm.
Donc, le jeune qui ne travaille pas,
mm-hmm.
le jeune qui n'a rien à faire.
Mm-hmm.
Donc, ce jeune, souvent, il est trop tenté par l'enroulement à faire mm-hmm. ces débauches nuisibles-là.
Ce mauvais métier.
Ce mauvais métier-là. Maintenant, à part l'insécurité, ce jeune qui n'a pas, qui n'a rien à faire,
mm-hmm.
ce jeune
mm-hmm.
qui, à la maison, il est là avec des pressions sociales.
Mm-hmm.
Donc, ce jeune...
Pression sociale comme, par exemple
Pression sociale comme au niveau de la famille.
Mm-hmm.
Un jeune qui a plus de 20 ans,
mm-hmm.
souvent, il va se confronter à des problèmes
mm-hmm.
tels que des dépenses familiales.
Mm-hmm.
Les gens attendent quelque chose de lui.
Mm-hmm.
Donc, ce jeune-là, souvent, avec ces pressions sociales-là, ce jeune peut se conduire à prendre des stupéfiants.
Et ce qui n'est pas
qui
bon.
Qui est très nuisible à sa santé et surtout aussi à la communauté tout entière.
La communauté tout entière. Merci Hassan Alfari. Abdelkarim Madougou, qu'est-ce que le chômage crée comme impact sur la jeunesse de Dosso et la population en général?
D'accord. Et sur la jeunesse, premièrement, on va parler de désœuvrement
mm-hmm.
et d'une mauvaise atteinte de l'autosuffisance.
Mm-hmm.
Parce que le jeune qui ne travaille pas, il ne peut pas dire qu'il est autosuffisant. Le jeune qui n'a pas d'emploi ne peut pas se construire ni construire son avenir.
Mm-hmm.
Ça, c'est la conséquence directe sur le jeune lui-même.
Mm-hmm.
Et maintenant, sur la société,
mm-hmm.
il avait dit, le jeune qui est désœuvré
mm-hmm.
est plus
vulnérable
à la tentation
mm-hmm.
des pratiques hostiles,
mm-hmm.
à l'enrôlement
mm-hmm.
dans le banditisme
mm-hmm.
et dans les groupes djihadistes,
mm-hmm.
comme nous l'avons vu dans certaines zones des frontières.
Mm-hmm.
Et le jeune qui est désœuvré
mm-hmm.
cherche coûte que coûte à combler un vide que seul le travail pouvait lui fournir.
Mm-hmm.
Ce vide-là est un manque d'abord financier
mm-hmm.
et un trou de temps.
Mm-hmm.
Il a du temps en abondance
mm-hmm.
et il a un problème financier.
Financier.
Donc, il doit s'adonner
mm-hmm.
d'abord au vol.
Au vol.
Au vol et à la délinquance sexuelle,
mm-hmm.
s'agissant de nos jeunes sœurs
mm-hmm.
ou même des jeunes garçons. Actuellement, mm-hmm. même, ils le font, ils vendent leur corps.
Ouais.
Il y a aussi le trafic de tout genre,
mm-hmm.
de tout ce qui est illicite, les jeunes le font.
Mm-hmm.
Il y a la déviation en général,
mm-hmm.
la déviation aux règles et aux normes sociales. Ce sont les conséquences du manque d'emploi
mm-hmm.
sur la jeunesse.
La jeunesse.
Et sur la société,
mm-hmm.
on constate un manque de quiétude
mm-hmm.
sociale.
Mm-hmm.
Parce que lorsque les jeunes sont désœuvrés, soyez sûr que ces jeunes-là vont constituer un danger pour la société,
public.
Danger public. Au lieu d'aider la société, ces jeunes-là seront un frein.
Mm-hmm.
Et d'un point de vue général, lorsque les jeunes manquent d'emploi, soyez sûr que cette communauté ne pourra se développer.
Mm-hmm.
Parce que je l'ai dit dans les propos introductifs,
mm-hmm.
et la jeunesse, la base active des pays du Sahel, c'est plus de 70%.
Oui, c'est le pilier.
C'est le pilier. Et lorsque
ce
70%, c'est ce 70% est désœuvré, mais que vont faire les 30%?
Absolument. Même s'ils vont faire quelque chose, vraiment, ça ne va pas
oui,
suffire
pour
tranche, booster le développement.
Merci. La tranche qui peut faire quelque chose n'a pas d'emploi, donc je ne vois pas vraiment.
Merci, Abdelkarim. Monsieur Ibrahim, quel est l'impact que le manque d'emploi crée au niveau de la jeunesse et de la population?
De mon point de vue, le manque d'emploi crée une psychose à la personne même qui est dans cette situation, en particulier le jeune. Parce que dans un premier temps, il va perdre l'estime de soi-même. Il va avoir le ressentiment.
Mm-hmm.
Il va avoir cette conviction de vouloir penser que tout ce qui lui arrive, c'est dit du fait qu'il n'est pas considéré.
Il n'a pas de travail.
Oui. Il ne se voit pas comme auteur, mais il se voit comme victime. Dans un premier temps, il devient alors de ce coup, il devient une menace pour lui-même, parce qu'il ne contrôle plus ses actes. Mmh. Et de surcroît, il devient une menace pour la société. Mmh. Parce que pour lui, tout lui est permis afin que lui, il puisse se sentir utile. Parce que l'homme, c'est Dieu qui l'a donné cette suprématie. Mmh. L'homme a une grandeur, mmh. alors il veut se faire de la valeur.
De la valeur, oui.
Par quel le moyen soit licite
ou illicite.
Ou illicite, il va devoir l'emprunter pour pouvoir s'affirmer en tant qu'homme. Du coup, toute personne, c'est-à-dire toute proposition, tout conseil, importe peu.
Toute opportunité
qui s'offre, lui, il est prêt à prendre. Alors, il devient encore une menace pour la société, comme je l'ai dit. Et en même temps, il va freiner le développement social à travers quoi ? À travers ses actes. Comme par exemple, aller tuer, aller voler le bien de quelqu'un, se mettre la personne en retard, et toi aussi le risque de se retrouver en prison ou même de fuir, parce que quelqu'un qui fuit aussi, il ne sait pas là où il va se caser. Alors là, il devient inutile. Et économiquement aussi, il ne peut pas contribuer. Quelqu'un qui n'a pas de travail et qui voit aussi, comment est-ce qu'on appelle, la vie, il veut une vie qui facile. Devient facile ou bien qui devient rose, il veut être bien, il veut manger bien, il veut dormir bien, il veut avoir une vie décente, se marier ou bien donner quoi à ses parents, alors il va devoir se mettre dans cette posture de gain facile. Et celui qui cherche le gain facile ne peut pas contribuer au développement.
Jamais.
Alors, il ne fait qu'attendre la première occasion qui vient, d'où l'enrôlement dans les Et celui qui fait amener ou bien ravitailler les bandits, je prends un exemple, amener un bidon de 25, tu as 100 000 francs.
Oui.
Aujourd'hui, aucun jeune désœuvré ne peut se résister
à
cette tentation. Si aujourd'hui, une femme, demoiselle, belle qu'elle soit, si on dit, ah, vas-y, chaque fois tu vas nous préparer, chaque cuisine que tu veux, chaque préparation, chaque repas que tu vas préparer, tu as au moins 200 000 francs. Comment est-ce que cette jeune fille pourra résister à ce genre de tentation? Alors, il y va de droit de penser que tout celui qui perd l'estime de soi, il ne va plus se contrôler.
Merci. Zainabou, est-ce que vous savez pourquoi les jeunes filles ne veulent pas aller vers ces centres de formation pour s'autosuffire?
Oui, c'est que d'autres ont la grosse tête et il y a d'autres aussi qui n'ont pas les moyens d'aller s'inscrire. Aujourd'hui, tu vois un atelier de couture. On te dit d'amener 45 000 pour y intégrer.
Wow.
Comment tu vas faire pour avoir l'argent d'y intégrer?
Mm-hmm.
Tu es obligé d'aller chercher auprès de quelqu'un. Mm-hmm. Et le quelqu'un-là, c'est-à-dire c'est qui? C'est les hommes?
C'est les hommes.
Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, il n'y a pas un monsieur qui peut te donner 2 000 ou 5 000 mm-hmm. sans rien te faire. Il n'y a pas. Et moi, toutes ces causes-là, moi, je les remets au niveau des hommes. Parce que ce que tu ne veux pas que ta fille fasse, tu vas le faire à la fille de quelqu'un.
C'est pas bien. Selon vous, les jeunes sont-ils en chômage parce qu'ils n'ont pas un encadrement, ils n'ont pas une formation? Hassan.
Merci encore une fois de plus. Oui, au fait, les jeunes qui sont en chômage refusent d'aller voir ceux qui savent mieux dans le domaine qu'eux. Donc ces jeunes-là, ce sont ceux qui ils refusent même d'aller chercher le travail. Ceux qui se rapprochent pour chercher les coachings et trouvent ces coachings-là. Parce que nous sommes là avec nos grands frères. Donc, eux, deux fois, on se retrouve en ce genre de situation. Quand on les approche, surtout sur les coachings, surtout aussi sur l'entrepreneuriat, ils sont là, ils nous aident. Il y a aussi ce problème de qualification-là, relativement à notre système éducatif. Nous sommes dans un système éducatif où la formation qu'on donne au niveau de l'école ne permet pas à nombreux de ces jeunes de se retrouver avec des emplois, de créer même leur propre emploi. Bien que maintenant, avec les CPT, il y a les formations professionnelles, on voit maintenant les jeunes, il y a des jeunes qui arrivent à créer des emplois à travers ces formations-là qui sont adaptables à nos réalités.
Merci. Abdoul Kadri. Parmi les jeunes qui chôment, on y trouve des filles. Les filles, comment arrivent-elles à s'en sortir? Comment elles se débrouillent?
Nous sommes dans dans une société traditionnelle africaine. Et on sait que la jeune fille, normalement, sa charge revient à sa famille. C'est pas comme chez les jeunes garçons qui, au bout d'un certain âge, sont abandonnés à eux-mêmes. Ils se cherchent d'eux-mêmes, ils sont abandonnés à leur propre sort. Mais la jeune fille, dans notre société, qu'elle soit jeune ou vieille fille même, jusqu'à ce qu'elle soit prise par un autre homme dans un foyer, pour qu'elle, jusqu'à ce qu'elle ait un mari, elle est sous la charge de la famille. Seulement, on ne peut pas y écarter et l'éventualité ou la potentialité de certaines exceptions. Je m'explique. Vous allez voir, il y a des familles dans lesquelles les jeunes filles ne sont pas prises en charge. À partir d'un certain âge, les parents les laissent à leur propre sort. Et elles, pour se débrouiller, il y a certaines d'entre elles qui arrivent à travailler. Mais votre question est axée sur les jeunes filles qui ne travaillent pas. Celles qui ne travaillent pas, elles attendent, elles sont toujours conservatrices, nos soeurs. Elles attendent toujours de la part des hommes, de notre homme. La femme est une reine en Afrique, d'accord? Et c'est ce qu'elles se sont mises en tête. Elles doivent avoir quelque chose, elles doivent être gérées, elles doivent être prises en charge.
Mais est-ce que ça doit rester éternellement comme ça? Parce que nous voyons les pays qui sont à côté de nous. Nous voyons les jeunes filles, quand elles viennent, comment elles se battent.
Tout ce qui est débravation de nos mères est lié en toi, en tant soit peu, par cette situation de manque d'emploi, de précarité,
mais justement,
de pauvreté aussi. On ne peut pas en découdre la pauvreté et le comportement dans lequel végètent
nos jeunes sœurs.
Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une irresponsabilité qui devient de plus en plus fréquente au niveau des familles d'abord. Parce qu'on ne peut pas savoir qui dirige qui ou bien qui ordonne quoi. Du moment où le parent qui est le premier responsable dans un premier temps du foyer n'arrive pas à assurer le minimum soit-il de nourrir ses enfants, de nourrir sa femme, comment peut-il avoir ce rôle ou bien ce rôle de décideur? Il serait très mal vu. Même s'il parle à sa fille, la fille ne veut pas l'écouter. Même s'il ordonne sa femme ne veut pas exécuter. Alors, la fille ou bien l'enfant sera délaissé à lui-même et il va s'adonner juste à recevoir une culture qu'il va avoir de l'extérieur, c'est-à-dire de la société. Il devient sur la charge de la société. Et la société n'éduque pas. La société t'accompagne dans l'illusion. Tu vas penser que non, ce que tu fais, c'est du bien, mais en réalité, tu vas te rendre compte que ça te nuit à la longue. Alors, je dis que c'est que
Abdoul Karim vient
de dire, j'épouse énormément son idée. Il faut que la jeune fille arrive dans un premier temps à être conservatrice de ses mœurs.
C'est-à-dire conservatrice de ses mœurs, ça veut dire être à la charge de la famille. Zainabou, les filles, elles se battent. Comment elles s'en sortent ici à Dosso? Parce que le problème du chômage est là. Et ça les touche aussi.
Donc, en parlant de se battre, vous savez, les filles se battent, mais de manière différente.
Ok, explique-moi.
Et quand je dis de manière différente, il y a des filles qui s'adonnent et à des travaux pour pouvoir se prendre en charge. Et aussi, il y a d'autres qui ne font rien qu'attendre les hommes. Tu es à la maison, tu ne fais rien, tu ne sors pas. C'est toi la domestique de la maison. Les enfants même vont t'insulter. Alors que celle qui sort là, on dit qu'elle se bat pour trouver l'argent. Elle se bat, comment elle le trouve? Comment elle se bat? C'est ça à savoir.
Monsieur Ibrahim, vous êtes entrepreneur. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté?
Merci beaucoup. Cette question, elle est la meilleure question à laquelle je peux bien répondre d'ailleurs. Aujourd'hui, en tant que jeune, entreprendre n'est pas du tout facile dans un premier temps, il faut le comprendre. Il va falloir qu'on ait une idée, croire dans un premier temps à son idée, et mettre en pratique cette idée et jusqu'à la formalisation. C'est tous ces processus, nous les avons suivis. Mais très malheureusement, au niveau des fiscs, on a énormément de problèmes du moment où, en tant que jeune entrepreneur, qu'on vient de, juste de démarrer son entreprise, mm-hmm. et que voilà, on nous amène une mm-hmm. imposition. Mm-hmm. Quelqu'un qui n'a même pas d'abord commencé. Mm-hmm. Où est-ce qu'il peut trouver cela? Mm-hmm. Deuxièmement, il manque d'accompagnement. Mm-hmm. L'accompagnement, c'est quoi? C'est quand on voit au moins un jeune qui arrive à se démerder, à vouloir entreprendre quelque chose qui sera bénéfique pour toute la population, mm-hmm. au lieu de le motiver, au lieu de l'accompagner, au lieu de le soutenir, mm-hmm. c'est tout à fait le contraire. Le soutien n'est pas seulement financier, mm-hmm. il est aussi l'achat. Quand on voit un jeune, il crée des articles, au lieu de le payer, mm-hmm. non, c'est de prendre à crédit dans mm-hmm. un premier temps, ou bien même le laisser avec ses produits, aller acheter mm-hmm. plus cher que ce que lui il vend et de même qualité. Mm-hmm. Souvent que la qualité que nous avons ici mm-hmm. n'est même pas à comparer. Mm-hmm. Parce que j'ai commencé par l'agriculture dans un premier temps, la riziculture. Mm-hmm. Nous nous sommes balancés dans la vente de la pâte d'arachide, surtout semi-mécanisée. Mm-hmm. Maintenant, nous sommes dans l'enseignement professionnel mm-hmm. à travers la création d'une école privée. Tout cela, on n'est pas accompagné. Et c'est juste quelques années, et on sent que réellement que la durée de vie de nos entreprises ne peut pas excéder 2 ans.
Donc vous ne pouvez même pas donner la main à un
quelqu'un
autre jeune encore?
Que de les conseiller, voilà nous là où on était limité. Et deuxièmement aussi, il y a ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle, difficulté. Mm-hmm. Les gens aiment trop ce qui est local, mais plutôt ce qui est importé. Il n'y a pas cette culture de consommation locale comme les gens sont en train de le chanter, mais ça tarde vraiment à venir. Donc du coup, c'est aussi un autre problème qu'il faille pallier.
Merci. Zainab, vous êtes également entrepreneuse. Vous pouvez nous parler un peu de votre entreprise. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire et puis quels sont les problèmes auxquels vous avez eu à faire face ou bien que vous faites face actuellement?
Et en parlant de l'entrepreneuriat, comme on le dit, c'est trop dur. Trop dur même. Pourquoi? Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas entreprendre. Aujourd'hui, tu achètes. Moi, personnellement, je fais du pâte d'arachide mm-hmm. et de l'huile. Mm-hmm. Tu achètes le sac d'arachide à 18 000. Mm-hmm. Tu viens, tu enlèves, comment dirais-je,
les coques.
Les coques. Mm-hmm. Tu achètes du bois. Mm-hmm. Ensuite, le machine même pour le cuir, pour mm-hmm. la cuisson. Mm-hmm. Tu loues ça. Tu finis tout ça là. Le litre, c'est à 1500 seulement. Mm-hmm. Tu finis tous les sacs. Tu n'auras pas tes 18 000 là que tu as mis dedans.
Donc, il n'y a pas aussi des structures qui vous accompagnent?
Ok, nous avons recevoir beaucoup de structures, beaucoup de ONG. Ils viennent, ils nous localisent, ils font tout. Mais à la houpe, on ne les reverrait plus jamais.
Ils disparaissent.
Ils disparaissent. Combien de fois ils font ça?
Abdoul Karim Madougou, le chômage, a-t-on coutume de dire, rime avec la pauvreté? Est-ce que parce qu'on est au chômage, on doit être délinquant?
Et être au chômage ne veut pas forcément dire être délinquant. Mais le chômage favorise la délinquance. Mm-hmm. Le chômage ne veut pas dire délinquance, mais le chômage favorise la délinquance.
Ok, explique-toi.
Voilà. Pour un jeune qui est désœuvré, un mm-hmm. jeune qui n'a pas d'emploi, mm-hmm. soyez sûr que ce jeune-là a un souci d'estime de soi. Mm-hmm. Il l'avait dit tout à l'heure, Ibrahim l'expliquait. Mm-hmm. Il a un souci d'estime de soi. Mm-hmm. Il a toujours une conscience qui est dérangée face aux charges familiales et face à ses propres charges. Mm-hmm. Maintenant, vu qu'il ne peut pas subvenir à ses propres besoins mm-hmm. et aux besoins de sa famille, mm-hmm. il est dans une anxiété mm-hmm. permanente mm-hmm. que seul, il va, selon lui, selon la conception qu'il se fait, mm-hmm. garder en tête que seul, il ne peut avoir qu'une évasion que dans la consommation des substances psychotropes. Mm-hmm. Les gens ont coutume de le dire, dit que bon voilà, la lorsque tu es par exemple énervé ou que tu es stressé, mm-hmm. la cigarette te permet de défouler. Mm-hmm. Lorsque tu as des problèmes de conscience, lorsque tu prends une drogue, mm-hmm. la cocaïne par exemple, elle mm-hmm. te permet de rêver. Mm-hmm. Lorsque tu prends de l'alcool, tu vas oublier tes soucis. Mm-hmm. Et là, c'est encore une occasion d'attirer l'attention de nos jeunes. Mm-hmm. Toutes ces drogues-là, toutes ces substances mm-hmm. n'apaisent en aucun cas l'esprit ou l'état d'âme. Ces drogues-là ne font qu'empirer ta situation parce mm-hmm. qu'au fil du temps, mm-hmm. tu seras accro. Au mm-hmm. fil du temps, tu seras un sujet assujetti à la consommation de ces substances-là. Mm-hmm. C'est juste une évasion temporaire. Parce que tu perds ta conscience, ça veut dire que tu n'es pas là, tu ne réfléchis pas. Tu n'es même pas, tu deviens même pas animal, mais tu deviens à un état inerte. C'est comme si tu n'as pas de conscience, tu n'as même pas d'esprit. Et là, la délinquance et le chômage vont de pair. Parce que rares sont ceux qui peuvent rester dans leur dignité ou dans le respect des règles. On t'impose ou que tu n'as quelqu'un, c'est parce que c'est comme si c'est une imposition. Hein. Mm-hmm. On te dit, bon, voilà, mm-hmm. il est interdit d'arracher mm-hmm. et un téléphone dans la main d'une demoiselle sur mm-hmm. la voie publique. Mm-hmm. C'est un interdit, d'accord. Mm-hmm. C'est une loi, c'est quelqu'un qui te l'a imposé. C'est mm-hmm. ce que tu vas avoir. Mm-hmm. Et tu vas te dire, mais si cette personne m'impose de me débrouiller de cette mm-hmm. manière, parce que pour eux, c'est se débrouiller, mm-hmm. mais pourquoi cette personne ne me crée pas une condition pour que je puisse avoir des moyens sans y avoir à porter atteinte à la sécurité mm-hmm. ou à la quiétude sociale. Mm-hmm. Vraiment, c'est toutes ces interrogations qui mènent les jeunes à la délinquance. Elles sont voisines, mm-hmm. les deux expressions, mm-hmm. mais ça ne veut pas forcément dire que
il faut automatiquement
être délinquant.
Hassan Alfari, vous pensez que parce qu'on est au chômage, on doit de fait devenir délinquant?
Non, je dirais non. Parce que d'abord, ces gens-là qui, parce qu'ils sont au chômage, se permettent d'être enrôlés dans la délinquance-là. Mm-hmm. Ce sont des gens qui sont irresponsables. Mm-hmm. Souvent, ce sont des gens qui ne prennent pas véritablement conscience mm-hmm. de la situation dans laquelle ils se retrouvent. Mm-hmm. Parce que quand tu prends ces stupéfiants-là, mm-hmm. c'est avec de l'argent que tu payes ça. Mm-hmm. Avec cet argent-là, tu peux faire quelque chose. Mm-hmm. Ce sont aussi des jeunes qui n'ont pas les titres là de notre nouvel hymne, mmh. l'honneur de la patrie. Ce sont des gens qui, ils se disent, je suis dans cette situation, bon, je m'en fous. Mmh. Ils s'apprêtent à faire certaines choses mmh. qui sont très nuisibles, qui mmh. ne sont pas bien derrière. Mmh. Ces gens-là, ils ont peur, si je peux le dire, de l'entrepreneuriat. Mmh. Oui, l'entrepreneuriat est dur. Mmh. Oui, mmh. quand on n'a pas le courage et la persévérance, on ne peut pas le faire. Mmh. Mais quand même, quand on est là, avec ceux qui connaissent déjà le chemin, ils sont là pour guider ces jeunes-là qui veulent intégrer ce domaine-là.
Zainabou, vous pensez qu'une jeune fille, parce qu'elle est pauvre, elle doit de fait être délinquante?
Bon, je dis pas forcément. Hein. Pas forcément. Si tu es pauvre, la pauvreté, là, tout le monde est pauvre. Il n'y a pas quelqu'un au Niger qui n'est pas pauvre. Sauf que les pauvretés diffèrent. Moi-même, je suis pauvre. Mais je ne suis pas délinquante. Je travaille, je me sacrifie pour mon avenir, pour mon honneur aussi. Ce n'est pas la pauvreté, c'est dans leur tête qu'il y a la pauvreté. La pauvreté, on ne le voit pas, c'est dans la tête. Oui. Donc il faut travailler la tête pour sortir de la pauvreté dont les gens parlent.
Ibrahim Garba, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis pour faire sortir les jeunes du chômage et faire sortir de la pauvreté?
La première des choses que moi je vais dire, il faudrait qu'il y ait une réformation du système éducatif. Je me permets de vous dire qu'il y avait une stratégie nationale de l'entrepreneuriat dont nous avons eu la chance de contribuer à sa vulgarisation en tant qu'ambassadeur de l'entrepreneuriat en 2020, qui vise à inclure dans le système éducatif l'enseignement de l'entrepreneuriat depuis le niveau primaire. Mais c'est une stratégie que beaucoup, bon de nombre de la population ont salié du moment où on voit les limites du système actuel que d'enseignement qui ne produit pas des professionnels, mais plutôt des théoriciens. Alors, il va encore dans un premier temps penser à l'encadrement et à l'orientation des jeunes à vouloir entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas le mot, entreprendre. Ça a un contenu, ça a une substance qu'il faut essayer de revaloriser à travers cette culture entrepreneuriale. Et avec cette volonté de se prendre en charge, avec cette pensée aussi de ne pas être toujours sur la charge de l'État, plutôt de contribuer à rehausser la charge de l'État, c'est-à-dire l'économie de l'État. Et il va falloir aussi qu'on mette l'accent sur l'enseignement professionnel qui, de nos jours, on voit partout ici à Dosso, généralement les jeunes, surtout ceux qui font la construction, les maçons, sont des gens qui viennent du Bénin. Tandis que les jeunes qui sont ici à Dosso, désœuvrés, n'arrivent pas. Bon, je ne sais pas qu'ils n'arrivent pas. Ils n'ont même pas les compétences requises pour pouvoir concurrencer cela. Alors, c'est le lieu de dire à l'État de renforcer l'enseignement professionnel et technique à travers des outils modernes de, comment est-ce qu'on appelle, d'enseignement.
D'enseignement,
surtout dans le volet de l'enseignement professionnel. Et il faut aussi penser aussi à accompagner les jeunes structures, qui arrivent à s'organiser, c'est-à-dire en réseau. Parce qu'individuellement, ils ont tenté d'aider, mais pourquoi ne pas aller dans le système de réseautage? Karim est là, il fait peut-être du coton. Moi, je suis là, j'ai un atelier. Elle est là, elle fait la teinture. De nous mettre en réseautage pour que la chaîne de production ou bien de transformation puisse être revalorisée sans qu'il n'y ait de problème d'approvisionnement ou bien de teinte ou bien d'achat.
Et ça bénéficie
à
tout le monde.
À tout le monde. Et que les jeunes qui sont là et qui voient des modèles vont finalement adhérer. Il y a une politique qu'ils ont adaptée aussi à travers les jeunes modèles de la Chambre de commerce. Donc nous avons été en premier sur la liste, mais jusqu'à présent, pour vulgariser, pour être des jeunes qui vont promouvoir l'entrepreneuriat à travers un appui. On a vu seulement la liste, jusque-là, on ne sait même pas où est-ce qu'on en est. Il faut aussi penser à, pas l'encadrement seulement, à pouvoir suivre les jeunes-là que nous avons formés ou bien nous avons orientés sur l'entrepreneuriat. Il faut les suivre, il faut les accompagner jusqu'à la phase de développement parce que la phase d'amorçage est certes difficile, mais quand ça commence à aller, il faut aller au développement jusqu'à l'extension pour couvrir un peu, comme on a dit, Zeleka, zone de libre-échange continental. Il faut qu'on ait cet esprit et d'orienter les jeunes surtout, parce que ce n'est pas les VR qui vont venir pour pouvoir faire ressortir le nom ou bien les labels du Niger à travers cette zone de libre-échange continental. Il faudrait qu'on mette l'accent sur cet état de fait. Il y a un fonds qu'on a dit, FONAP, qui est mis à la disposition des gens. Il faut qu'ils revoient aussi l'attribution de ces fonds-là. Avoir un chiffre d'affaires, avoir des, comment est-ce qu'on appelle, ils ont dit, un état financier. Comment le jeune qui vient de se démarrer va avoir un état financier?
Non.
Comment il peut même avoir un compte bancaire du moment où chaque mois, il y a ce qu'on appelle frais de tenue de compte? Il n'arrive même pas à payer les frais de tenue de compte de 5 000 francs. Comment est-ce qu'il peut avoir un état financier pour pouvoir bénéficier et faire des chiffres d'affaires de 50 millions, s'il vous plaît? Alors, il faut qu'on revoie et qu'on adapte ça à nos réalités parce qu'on sait que le jeune est désœuvré. Il n'a pas les moyens. S'il a les moyens, il n'allait pas attendre. Mais il faut rendre trop flexibles les exigences envers les jeunes entrepreneurs afin qu'ils puissent contribuer au développement économique et social de nos populations.
Monsieur Abdoulkarim, comment on peut faire sortir les jeunes de Dosso dans le chômage?
Faire sortir les jeunes de Dosso dans le chômage est aussi simple que complexe. Parce que le premier point qu'il faudrait prendre, c'est moi je prendrais d'abord en première position au niveau des employeurs, des recruteurs, parce que quand on parle d'emploi, il ne faudrait pas voir seulement les entrepreneurs. L'entrepreneuriat est un exploit que c'est pas vraiment à la portée de tous les jeunes. Tous les jeunes ne peuvent pas être entrepreneurs. Maintenant, au niveau des employeurs, nous avons cette fâcheuse tendance à considérer uniquement ceux qui ont des années d'expérience. Ce qui fait que seule une infime partie de la population, moins de 2%, sont à chaque recrutement recrutés d'un poste à un autre, d'une administration à une autre. On a un contrat de 10 ans, on va dire, bon voilà, et on a une offre d'emploi, mais il faudrait que le titulaire du poste soit ait une expérience dans un poste similaire, une expérience de moins de deux ans, c'est encore peu. On va vous dire 10 ans, on va vous dire 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. Mais le jeune qui a à peine 20 ans, comment est-ce qu'il va avoir 20 ans d'expérience?
Ou bien qui est fraîchement sorti de l'école.
Qui est fraîchement sorti de l'école ou de l'université, comment est-ce qu'il va avoir 10 ans ou 15 ans d'expérience? Or que, et voilà, ce vieux qui est là, il occupe ce poste. Après les 3 ans, il y a une autre offre d'emploi qui vient. Lui, le jeune, il est toujours là. Il est jeune, il est jusque là, en train, jusqu'à partir à la vieillesse, jusqu'à ses quarantaines ou à ses cinquantaines, il n'a pas eu d'emploi. On sort une autre offre, on dit il faut minimum 7 ans d'expérience. Et lui, il est là, jusque là, il n'a eu aucune année d'expérience. Il faudrait qu'on revoie cela. Moi, je préférerais à ce qu'il y ait un test ou un concours s'ils veulent. Le jeune fraîchement sorti de l'école peut être meilleur que celui qui a 10 ans d'expérience. Tout dépend de la tranquillité d'esprit du jeune ou de la personne qui va opérer. S'ils veulent un test, s'ils veulent un concours, d'accord. Mais il faudrait revoir ce système-là. Deuxièmement, là, je m'adresse directement à l'État et l'État du plus haut niveau jusqu'à la gouvernance locale. On a un problème de gouvernance. Parce que quand on parle d'emploi de jeunes, il ne faudrait pas uniquement voir la maison de l'entrepreneuriat, la direction de le ministère de la Jeunesse, le ministère des Finances, du Commerce, ainsi de suite. Il faudrait voir, en gros, tout ce qui est service technique, qu'elle soit concentrée ou déconcentrée de l'État. Parce que dans toutes ces administrations, il y a au moins un poste qu'un jeune peut occuper. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est parce que l'État a une insuffisance de moyens. Non! C'est parce que les moyens de l'État sont mal utilisés. On alloue, par exemple, et on dit que c'est le budget de la maison de l'entrepreneuriat, on dit que c'est 10 millions par an, et on dit que c'est 60 millions par an. Soyez sûr que ces 40 millions seront consommés dans les ateliers. Le fonctionnaire nigérien a tendance à consommer tous les budgets des ministères dans les ateliers. Ateliers de formation, ateliers de...
Sans matérialiser.
Mais on dit atelier pour l'insertion professionnelle des jeunes. On le fait, on injecte 20 millions. Atelier de vulgarisation de la politique de l'insertion des jeunes. On le fait, on injecte 20 millions, ça fait 40 millions. Atelier de suivi de la politique. On fait l'atelier, 20 millions aussi. Les 60 millions sont partis. Et au finish, quel jeune a été impliqué? Quel jeune a eu un emploi? Il faudrait revoir ce système. Oui. Et pour mettre fin à ça, c'est très simple. Venez à la base, les jeunes entrepreneurs sont là. Vous avez besoin de quoi? Elle produit de la pâte d'arachide, elle n'est pas la seule. Je ne dirais pas, prenez, achetez les matériels. Il y a des matériels qui sont là, électroniques. Parce que j'ai dit dans mon introduction, le problème c'est l'industrialisation, le manque d'industrialisation et le manque d'adaptation des moyens modernes. S'il n'y a pas d'emploi à Dosso, c'est parce qu'il n'y a pas d'industrie. Ces jeunes dames, ces jeunes garçons qui font la production, de la transformation de l'arachide, s'ils ont des usines, soyez sûr que chaque usine peut au moins embaucher 50 jeunes. Les extractions minières qui se font à Sambera, au Boboy, si nous avons des usines d'extraction et de transformation, pas de transformation, d'extraction seulement de sel, nous allons avoir plus de 500 emplois à Sambera. Voyez ce que ça fait. Réunissez, faites une enquête, achetez les matériels. Vous avez besoin de ça pour vos usines. Maintenant, mettez les entreprises à compétition pour voir quelle entreprise mérite le lot. Donnez-lui le lot. Nous, ça serait encore mieux pour les jeunes que de faire les ateliers là, inutilement.
Merci. Hassan Alfari, comment faire sortir les jeunes du chômage?
Merci pour cette question. D'abord, moi je dirais pour faire sortir ces jeunes dans cette ornière, c'est d'abord de revoir le système éducatif. Parce que si on est là à parler de cette thématique qui est le chômage de jeunes, c'est que maintenant on a un système éducatif qui a tendance à former plus de chômeurs que des travailleurs. Parce que imaginez voir un temps soit pire, quelqu'un qui aille à l'université, après 4 ans, 5 ans d'études, il revient, il n'a rien à faire. Et quelqu'un qui a eu son BPC, il s'est orienté au niveau de la formation professionnelle. Après 2 ans de formation, il sort et crée son atelier. Donc, vous voyez, on a un système éducatif, comme je l'ai dit, qui n'est pas adapté à notre réalité. Donc, il va falloir qu'on revoie ce système éducatif. Maintenant, deuxièmement, c'est d'inviter nos chers jeunes au travail. Parce que seul le travail rend libre, seul le travail rend autonome. Donc, l'appel que nous lançons à ce jeune-là, c'est dire à ce jeune-là de se ressaisir. C'est très important. Donc, j'ai dit à mes jeunes frères de venir. On est là, on va travailler main de la main pour remédier à ce fléau.
Zainab, comment faire sortir les jeunes filles du chômage?
Et pour faire sortir les jeunes filles au chômage, c'est très simple. C'est très simple. C'est de créer des entreprises pour les jeunes filles-là. Mm-hmm. Nous avons beaucoup d'opportunités mm-hmm. en tant que filles. Mm-hmm. Et ici à Dosso, mm-hmm. nous avons combien d'ateliers de couture?
Mm-hmm. Plusieurs.
De formation, plusieurs ateliers de formation. Mais pourquoi ne pas aller te former et venir former tes petites sœurs et d'autres de la communauté? Et aussi de ne pas trop conseiller l'argent de la formation. Puis c'est ça, il y a des centres de formation qui disent « Hey, l'argent là c'est trop, je n'ai pas d'argent, donc je préfère rester à ne rien faire, croiser les bras et regarder seulement. »
Donc rendre accessible.
Rendre accessible, voilà.
D'accord.
Qu'on se lève, mm-hmm. qu'on se lève corps et âme pour mettre fin à ce chômage qu'on parle le matin et soir.
Fidèles auditeurs et auditrices du studio Kalangou, notre forum tire à sa fin. Notre forum qui a eu pour thème aujourd'hui chômage des jeunes, comment y remédier. Nous espérons aussi que les contributions qui ont été faites de part et d'autre par nos invités peuvent être une solution pour faire sortir ces jeunes du chômage. C'est un frein pour le développement, c'est un frein pour ces jeunes. Et ces jeunes aussi, à les entendre, ont à cœur de trouver les moyens pour travailler, pour s'autosuffire et aider aussi le pays à s'en sortir du sous-développement. Merci, chers invités. Pour ce forum, nous avons invité Hassan Alfari, EHPAD, Abdul Karim Madougou, cadre de concertation, Ibrahim Garba, entrepreneur, Soumane Boubacar Zainabou, elle est entrepreneuse. Merci également à vous tous qui nous ont suivis sur nos 52 radios partenaires. Ici prend fin notre forum. À la modération, je suis Ali Niali Abdul Moumouni. À la technique, nous avons Mustapha Ayouba. Excellente soirée à vous tous. Au revoir.